Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Γαλλική γλώσσα.
Επίπεδο Γ1 και Γ2. Έναρξη της εξέτασης.
Activité 1.
Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
Tout démarre en 1931, lorsque Georges Brossard, pâtissier, et sa femme Laure créent la marque Brossard et se lancent dans l'industrialisation de biscuits aux œufs, les boudoirs. En 1962, passionné d'Afrique, il crée Savane, un marbré aux couleurs de l'Afrique, avec une marbrure qui rappelle les paysages d'Afrique et qui rappelle le pelage du zèbre. On est au début des années 60 et les femmes entrent dans le marché du travail et ont un petit peu de moins de temps à la maison. Le goûter Savane, qui a une consommation un petit peu plus longue qu'un gâteau fait maison, grâce à son emballage, trouve sa place et permet aux mamans d'avoir un goûter tout prêt pour les enfants. Donc c'est assez révolutionnaire et innovant pour l'époque. Et cette innovation ne quittera plus la marque avec le lancement en 1984 des Savane en format individuel, en 1996 des brownies et en 1974 du cake aux fruits dont on fête les 50 ans cette année.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Tout démarre en 1931, lorsque Georges Brossard, pâtissier, et sa femme Laure créent la marque Brossard et se lancent dans l'industrialisation de biscuits aux œufs, les boudoirs. En 1962, passionné d'Afrique, il crée Savane, un marbré aux couleurs de l'Afrique, avec une marbrure qui rappelle les paysages d'Afrique et qui rappelle le pelage du zèbre. On est au début des années 60 et les femmes entrent dans le marché du travail et ont un petit peu de moins de temps à la maison. Le goûter Savane, qui a une consommation un petit peu plus longue qu'un gâteau fait maison, grâce à son emballage, trouve sa place et permet aux mamans d'avoir un goûter tout prêt pour les enfants. Donc c'est assez révolutionnaire et innovant pour l'époque. Et cette innovation ne quittera plus la marque avec le lancement en 1984 des Savane en format individuel, en 1996 des brownies et en 1974 du cake aux fruits dont on fête les 50 ans cette année.
Activité 2. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
Toutes les études en pédagogie montrent que les groupes de niveau sont inefficaces. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
C'est plutôt vrai, mais ce n'est pas aussi tranché. Ça dépend des conditions dans lesquelles sont organisés ces groupes de niveau. Des dizaines d'études ont été menées sur le sujet ces dernières décennies et un groupe de chercheurs spécialisés vient justement en novembre dernier de les synthétiser. Il l'affirme, les groupes ou les classes de niveau sont inefficaces dès qu'on parle de groupes permanents sur toute l'année scolaire. Les élèves ne progressent pas et certains régressent carrément.
Et alors comment ça se fait?
Les chercheurs avancent plusieurs raisons. D'abord, les élèves classés dans les groupes à faible niveau perdent confiance en eux et se démotivent. Ensuite, les enseignants ne sont pas toujours formés pour accompagner ces groupes particuliers. Et ils peuvent avoir tendance, ça a été documenté, à baisser leurs exigences. Résultat, le bien-être des élèves en pâtit, ils ne progressent pas et les inégalités risquent de se creuser.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Toutes les études en pédagogie montrent que les groupes de niveau sont inefficaces. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
C'est plutôt vrai, mais ce n'est pas aussi tranché. Ça dépend des conditions dans lesquelles sont organisés ces groupes de niveau. Des dizaines d'études ont été menées sur le sujet ces dernières décennies et un groupe de chercheurs spécialisés vient justement en novembre dernier de les synthétiser. Il l'affirme, les groupes ou les classes de niveau sont inefficaces dès qu'on parle de groupes permanents sur toute l'année scolaire. Les élèves ne progressent pas et certains régressent carrément.
Et alors comment ça se fait? fait?
Les chercheurs avancent plusieurs raisons. D'abord, les élèves classés dans les groupes à faible niveau perdent confiance en eux et se démotivent. Ensuite, les enseignants ne sont pas toujours formés pour accompagner ces groupes particuliers. Et ils peuvent avoir tendance, ça a été documenté, à baisser leurs exigences. Résultat, le bien-être des élèves en pâtit, ils ne progressent pas et les inégalités risquent de se creuser.
Activité 3. Lisez la consigne. Item 7A. Écoutez.
Vous êtes président national de la Fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE. Tenue unique donc dans 87 établissements, la ministre met en avant les difficultés de lancer cette expérimentation.
Item 8A. Écoutez.
Saint-Bonnet-le-Froid est devenu, grâce à Régis Marcon, une destination européenne de la gastronomie. Et s'il y a plusieurs mois d'attente pour une réservation, c'est que cette table 3 étoiles Michelin et 5 toques Guémillo, désormais gérée par le fils Jacques, au-delà du talent des chefs, a placé au cœur la nature et le produit.
Item 9A. Écoutez.
C'est le monument payant le plus visité au monde. Plus de 7 millions de visiteurs en 2014, l'année record. Encore 6 300 000 billets vendus l'an dernier. Et encore, on ne compte pas les près de 20 millions de curieux qui chaque année restent au pied de la Tour Eiffel.
Item 10A. Écoutez.
Il va y avoir du nouveau dans les applications de Meta, bientôt Facebook, Instagram et même Threads, hein, leur clone de X, signaleront les images générées par intelligence artificielle.
Écoutez encore une fois les items et complétez vos réponses. Item 7A. Écoutez.
Vous êtes président national de la Fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE. Tenue unique donc dans 87 établissements, la ministre met en avant les difficultés de lancer cette expérimentation.
Item 8A. Écoutez.
Saint-Bonnet-le-Froid est devenu, grâce à Régis Marcon, une destination européenne de la gastronomie. Et s'il y a plusieurs mois d'attente pour une réservation, c'est que cette table 3 étoiles Michelin et 5 toques Guémillo, désormais gérée par le fils Jacques, au-delà du talent des chefs, a placé au cœur la nature et le produit.
Item 9A. Écoutez.
C'est le monument payant le plus visité au monde. Plus de 7 millions de visiteurs en 2014, l'année record. Encore 6 300 000 billets vendus l'an dernier. Et encore, on ne compte pas les près de 20 millions de curieux qui chaque année restent au pied de la Tour Eiffel.
Item 10A. Écoutez.
Il va y avoir du nouveau dans les applications de Meta, bientôt Facebook, Instagram et même Threads, hein, leur clone de X, signaleront les images générées par intelligence artificielle.
Activité 4. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses.
Nespresso, c'est une histoire qui date depuis 1986, sa création. Éric Favre, un ingénieur suisse du groupe Nestlé, donc qui a effectivement créé cette capsule en café. L'idée étant de reproduire un café absolument parfait, un café à l'italienne. Il a d'ailleurs fait ça pour son épouse en 1986 et d'une manière très simple, en observant les baristas en Italie avec tout le travail qu'il y avait derrière. Finalement, il s'est dit qu'il y avait sûrement un moyen plus simple et c'est de là que Nespresso est né, le portionné est né. En 2023, d'ailleurs en France, on a lancé une innovation absolument incroyable, la plus grosse innovation selon moi et selon nous depuis la création de Nespresso, c'est la capsule en papier compostable. Donc c'est quelque chose qui est assez unique, une prouesse technologique. On donne maintenant le choix à nos consommateurs de soit consommer une capsule d'aluminium, de la recycler, soit effectivement de la composter. La pollution d'Nespresso, ce qu'il faut comprendre, c'est l'invention de ce système, c'est une question de précision. Donc en fait, quand on consomme une capsule d'Nespresso, on consomme exactement le volume de café nécessaire, l'eau nécessaire, l'électricité nécessaire. Et une capsule d'Nespresso est moins impactante pour l'environnement que du café moulu ou en grains, par exemple.
Encore une fois et complétez vos réponses.
Ah, Nespresso, c'est une histoire qui date depuis 1986, sa création. Éric Favre, un ingénieur suisse du groupe Nestlé, donc qui a effectivement créé cette capsule en café. L'idée étant de reproduire un café absolument parfait, un café à l'italienne. Il a d'ailleurs fait ça pour son épouse en 1986 et d'une manière très simple, en observant les baristas en Italie avec tout le travail qu'il y avait derrière. Finalement, il s'est dit qu'il y avait sûrement un moyen plus simple et c'est de là que Nespresso est né, le portionné est né. En 2023, d'ailleurs en France, on a lancé une innovation absolument incroyable, la plus grosse innovation selon moi et selon nous depuis la création de Nespresso, c'est la capsule en papier compostable. Donc c'est quelque chose qui est assez unique, une prouesse technologique. On donne maintenant le choix à nos consommateurs de soit consommer une capsule d'aluminium, de la recycler, soit effectivement de la composter. La pollution d'Nespresso, ce qu'il faut comprendre, c'est l'invention de ce système, c'est une question de précision. Donc en fait, quand on consomme une capsule d'Nespresso, on consomme exactement le volume de café nécessaire, l'eau nécessaire, l'électricité nécessaire. Et une capsule Nespresso est moins impactante pour l'environnement que du café moulu ou en grains, par exemple.
Activité 5. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses.
L'intelligence artificielle vient de provoquer son premier gros plan social en France. 217 salariés, plus de la moitié de la société Onclusive vont être remplacés par un logiciel. Anissé, est-ce qu'on va tous finir par perdre notre boulot?
Malheureusement, ce genre d'infos risque de se multiplier. Alors en France, c'est peut-être une nouveauté, mais il y a déjà des centaines d'exemples similaires dans le monde. Des centres d'appel, des cabinets de conseil, des journaux, même des radios ont remplacé leur personnel par des intelligences artificielles. Et c'est le sens de l'histoire, hein. Les évolutions technologiques ont toujours percuté l'emploi. Des moines copistes avec l'imprimerie à l'ouvrier qui travaille la chaîne en passant, je sais pas moi, par le poinçonneur des lilas. On ne compte plus les métiers victimes de l'automatisation. Sans être cynique, dès que la machine fait mieux, plus vite et moins cher, bah pourquoi embaucher un humain? Il peut faire grève, il peut tomber malade, il a besoin de vacances. Mais c'est vrai que la nouveauté, c'est que cette automatisation touche désormais des métiers intellectuels qui pendant longtemps se sentaient protégés. Le cabinet de conseil Goldman Sachs estime par exemple que 300 millions d'emplois sont aujourd'hui menacés par l'intelligence artificielle.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
L'intelligence artificielle vient de provoquer son premier gros plan social en France. 217 salariés, plus de la moitié de la société Onclusive vont être remplacés par un logiciel. Anissé, est-ce qu'on va tous finir par perdre notre boulot?
Malheureusement, ce genre d'infos risque de se multiplier. Alors en France, c'est peut-être une nouveauté, mais il y a déjà des centaines d'exemples similaires dans le monde. Des centres d'appel, des cabinets de conseil, des journaux, même des radios ont remplacé leur personnel par des intelligences artificielles. Et c'est le sens de l'histoire, hein. Les évolutions technologiques ont toujours percuté l'emploi. Des moines copistes avec l'imprimerie à l'ouvrier qui travaille la chaîne en passant, je sais pas moi, par le poinçonneur des lilas. On ne compte plus les métiers victimes de l'automatisation. Sans être cynique, dès que la machine fait mieux, plus vite et moins cher, bah pourquoi embaucher un humain ? Il peut faire grève, il peut tomber malade, il a besoin de vacances. Mais c'est vrai que la nouveauté, c'est que cette automatisation touche désormais des métiers intellectuels qui pendant longtemps se sentaient protégés. Le cabinet de conseil Goldman Sachs estime par exemple que 300 millions d'emplois sont aujourd'hui menacés par l'intelligence artificielle.
Activité 6. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses.
En France, est-ce que le castor est protégé ?
Oui, depuis longtemps. Hein. 1909, c'est le premier mammifère à avoir été protégé. On compte 25 000 castors en France actuellement, dans le bassin de la Loire, sur les affluents du Rhône. Mais globalement, l'animal a frôlé l'extinction au XXe siècle. Il était chassé pour sa peau, pour sa viande. Et on a mis du temps à prendre conscience de son importance pour les écosystèmes. Alors, que disent les études aujourd'hui ? D'abord, que le castor protège la biodiversité. Ces barrages favorisent la présence d'organismes aquatiques, d'insectes, d'oiseaux. On a mesuré localement qu'ils multiplient par 3, la diversité des amphibiens, par exemple. Ouais. Les études montrent aussi que les castors adoucissent les canicules. Ils créent des poches d'eau froide, ils rafraîchissent l'atmosphère par évaporation. Des chercheurs américains ont relevé un refroidissement local de 2,3 degrés de l'eau durant l'été. Ils empêchent les inondations en ralentissant l'écoulement de l'eau. Ils bloquent les incendies en imbibant les sols et les plantes alentour. Une étude a montré aux États-Unis encore que les zones avec les castors subissent 3 fois moins de pertes de végétation lors des grands feux.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
En France, est-ce que le castor est protégé ?
Oui, depuis longtemps. Hein. 1909, c'est le premier mammifère à avoir été protégé. On compte 25 000 castors en France actuellement, dans le bassin de la Loire, sur les affluents du Rhône. Mais globalement, l'animal a frôlé l'extinction au XXe siècle. Il était chassé pour sa peau, pour sa viande. Et on a mis du temps à prendre conscience de son importance pour les écosystèmes. Alors, que disent les études aujourd'hui ? D'abord, que le castor protège la biodiversité. Ces barrages favorisent la présence d'organismes aquatiques, d'insectes, d'oiseaux. On a mesuré localement qu'ils multiplient par 3, la diversité des amphibiens, par exemple. Ouais. Les études montrent aussi que les castors adoucissent les canicules. Ils créent des poches d'eau froide, ils rafraîchissent l'atmosphère par évaporation. Des chercheurs américains ont relevé un refroidissement local de 2,3 degrés de l'eau durant l'été. Ils empêchent les inondations en ralentissant l'écoulement de l'eau. Ils bloquent les incendies en imbibant les sols et les plantes alentour. Une étude a montré aux États-Unis encore que les zones avec les castors subissent 3 fois moins de pertes de végétation lors des grands feux.
Activité 7. Lisez la consigne. Item 1B. Écoutez.
La disparition d'un précieux trésor dans la péninsule ibérique, l'eau. Les autorités catalanes préparaient l'opinion publique depuis des semaines. C'est désormais officiel. L'état d'urgence sécheresse est déclaré dans l'agglomération de Barcelone.
Item 2B. Écoutez.
La Chine vient de battre le record de vitesse d'un train avec une rame flashée à plus de 623 km/h. Le train qui menace donc de plus en plus sérieusement l'avion.
Item 3B. Écoutez.
La balance commerciale, c'est la différence entre le montant de nos importations et nos exportations. Cette balance est déficitaire quand nous importons plus de biens que nous n'en exportons. Quand nous vendons nos produits à l'étranger, nous faisons rentrer de l'argent en France.
Item 4B. Écoutez.
D'une part, le comportement des patients a changé. Ils préfèrent aller aux urgences pour avoir sur un même lieu tous les spécialistes et examens possibles. D'autre part, le manque de médecins de ville, par endroits ou à certains horaires, oblige les patients à se tourner vers les urgences.
Item 5B. Écoutez.
Eh bien, cette question, l'Observatoire des métiers du BTP est allé la poser à 200 entreprises du bâtiment et des travaux publics en Île-de-France. Une très large majorité déclare avoir au moins une femme dans ses effectifs.
Écoutez encore une fois les items et complétez vos réponses. Item 1B. Écoutez.
La disparition d'un précieux trésor dans la péninsule ibérique, l'eau. Les autorités catalanes préparaient l'opinion publique depuis des semaines. C'est désormais officiel. L'état d'urgence sécheresse est déclaré dans l'agglomération de Barcelone.
Item 2B. Écoutez.
La Chine vient de battre le record de vitesse d'un train avec une rame flashée à plus de 623 km/h. Le train qui menace donc de plus en plus sérieusement l'avion.
Item 3B. Écoutez.
La balance commerciale, c'est la différence entre le montant de nos importations et nos exportations. Cette balance est déficitaire quand nous importons plus de biens que nous n'en exportons. Quand nous vendons nos produits à l'étranger, nous faisons rentrer de l'argent en France.
Item 4B. Écoutez.
D'une part, le comportement des patients a changé. Ils préfèrent aller aux urgences pour avoir sur un même lieu tous les spécialistes et examens possibles. D'autre part, le manque de médecins de ville, par endroits ou à certains horaires, oblige les patients à se tourner vers les urgences.
Item 5B. Écoutez.
Eh bien, cette question, l'Observatoire des métiers du BTP est allé la poser à 200 entreprises du bâtiment et des travaux publics en Île-de-France. Une très large majorité déclare avoir au moins une femme dans ses effectifs.
Activité 8. Lisez la consigne. Lisez les 5 items. Écoutez.
La BD, vous allez nous parler de ces héros qui font un pas de côté. Ça veut dire quoi ?
Eh bien,
Contrairement aux nouveaux auteurs d'Astérix ou de Gaston Lagaffe, par exemple, qui font tout pour rester les plus fidèles possibles au dessin des créateurs, il en est qui choisissent de trahir en apparence les personnages mythiques du 9e art pour mieux les respecter. C'est le cas du scénariste Martin Kénéen et du dessinateur Bastien Vivès qui ont repris à leur compte le personnage de Corto Maltese. Il y a 2 ans, ils créaient la surprise avec Océan Noir. L'action se situait au moment de la chute des tours du World Trade Center en 2001. On retrouvait pourtant le gentilhomme de fortune tel qu'en lui-même, ballotté par les événements. C'est ainsi qu'on le recroise dans La Reine de Babylone. L'histoire commence à l'automne 2002 à Venise, mais va vite se poursuivre sur la côte croate, où les plaies de la guerre en Yougoslavie ne sont pas refermées. Ulysse moderne, Corto va tomber de Charybde dans Scylla. Il passera par la Turquie pour atterrir en Irak. Corto Maltese, La Reine de Babylone, aux éditions Casterman.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
La BD, vous allez nous parler de ces héros qui font un pas de côté, ça veut dire quoi ?
Eh bien, contrairement aux nouveaux auteurs d'Astérix ou de Gaston Lagaffe, par exemple, qui font tout pour rester les plus fidèles possibles au dessin des créateurs, il en est qui choisissent de trahir en apparence les personnages mythiques du 9e art pour mieux les respecter. C'est le cas du scénariste Martin Kénéen et du dessinateur Bastien Vivès qui ont repris à leur compte le personnage de Corto Maltese. Il y a 2 ans, ils créaient la surprise avec Océan Noir. L'action se situait au moment de la chute des tours du World Trade Center en 2001. On retrouvait pourtant le gentilhomme de fortune tel qu'en lui-même, ballotté par les événements. C'est ainsi qu'on le recroise dans La Reine de Babylone. L'histoire commence à l'automne 2002 à Venise, mais va vite se poursuivre sur la côte croate, où les plaies de la guerre en Yougoslavie ne sont pas refermées. Ulysse moderne, Corto va tomber de Charybde dans Scylla. Il passera par la Turquie pour atterrir en Irak. Corto Maltese, La Reine de Babylone, aux éditions Casterman.
Τέλος της εξέτασης. Καλή επιτυχία!